Papa,
Sarah
et Lisanne.
On est les Shirley. Vous écoutez choc.ca.
Heureux lundi à tous de vous écouter dans les airs, ici choc.ca. Je suis Florence et cette semaine, on a des invités spéciaux. Je suis encore en compagnie d'Olivia, évidemment, mais on a deux invités qui se sont peut-être trompés d'émission. Vous les retrouvez souvent au palmarès le vendredi avec moi, mais là, on quitte la piste de danse musicale pour se retrouver sur le magazine culturel avec Antoine et Alexis. Comment vous allez?
Ça va bien, toi?
Ouais. Ah,
ça va super bien, merci.
Pas trop dépaysé de pas être au palmarès en ce moment?
Non, on se débrouille, ça va bien.
Et bienvenue là dans les airs.
Merci.
On prépare des quoi de gros, là? Écoutez-nous, d'écouter la prochaine émission.
Ouais, la prochaine émission, ben oui. Fait que dans le fond, Alexis est venu dans les airs juste pour parler de l'émission du palmarès. Mais oui, c'est ça, cette semaine, c'est quand même une belle semaine dans les airs. On a vécu le RIDM en automne dernier avec les documentaires à Montréal, une rencontre internationale. Et là, cette semaine, on s'en va vers le cinéma, le RVQC, Rendez-vous Cinéma Québec. Oleg voulait peut-être faire une annonce avant qu'on commence sur ce rendez-vous-là.
Oui, avant qu'on commence quoi que ce soit, je voulais juste souligner un petit truc. En fait, le choc.ca va avoir une assemblée générale extraordinaire, qu'on appelle comme toujours extraordinaire, le mardi prochain, le 7 mars, des midi 30 à 13h30, au local RM130, ou bien il y a aussi l'option en ligne. C'est une assemblée assez importante pour le choc, puisqu'il y a l'augmentation du coût de la cano. Si vous voulez en découvrir davantage, venez à l'assemblée générale, et il va y avoir de la pizza pour tout le monde. Merci.
Ouais, donc si vous êtes fan des émissions, si vous êtes fan de musique, on veut à l'Assemblée, ça va être super important comme rencontre.
Venez en grand nombre, invitez vos amis et même vos parents.
Exact, oui. Tout pour une bonne pointe de pide et un avenir de la radio étudiante à l'UQAM. Donc c'est ça, on va commencer en parlant justement du rendez-vous Cinéma Québec. Olivia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ce qui nous attend de ce mercredi 22 mars au samedi 4 mars prochain?
Oui. Donc, ce mercredi, le 22 février, à 19h, au Théâtre Maisonneuve, c'est la soirée d'ouverture du Rendez-vous Québec Cinéma. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est le seul festival entièrement dédié au cinéma québécois qui propose depuis 40 ans, donc c'est la 41e édition. Le plus vaste éventail de genres, ça propose des films très intéressants, des premières médiatiques, une centaine de premières médiatiques, plus de 300 films en total. Ce n'est pas que des représentations, il y a aussi des labs, des ateliers. C'est l'offre le plus actuelle au Québec en ce moment pour ce qui est nouveau cinéma québécois. Puis nous allons entendre parler d'un film présenté au Rendez-vous Québec Cinéma par Antoine. C'était Le Plongeur. Puis tu as vu la première médiatique le 13 février.
Oui, c'est ça. Je suis allé voir la première médiatique du Plongeur le 13 février. C'est l'adaptation du livre Le Plongeur de Stéphane Larue par Francis Leclerc avec Éric Boulian à la scénarisation. Donc, c'est ça, Le Plongeur, qui est un livre qui a eu un très, très grand succès, qui vient juste d'être adapté à l'écran. Ça va être la première mercredi, le 22, et ça va sortir en salle le 24. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui ne connaissent pas le livre, Le Plongeur, c'est l'histoire de Stéphane, 19 ans, qui déménage à Montréal pour aller au cégep du Vieux faire une technique en design graphique. Début des années 90, fin des 90, début 2000, c'était pas trop clair dans le film, dans le livre, je me rappelle plus exactement c'est où, mais ça vous donne une idée de l'époque. Donc fin 90, début 2000, on va très vite comprendre qu'il a un problème de jeu. Un problème de jeu qui va le faire arrêter d'aller à l'école. Il s'endette auprès de son coloc, ses amis, son ex, sa famille. Il va vraiment atteindre le fond et il va se mettre à travailler comme plongeur pour se reconstruire là-dessus. Donc, c'est la prémisse du film. On va explorer un univers de l'addiction avec le jeu. Donc, beaucoup de mensonges, de tromperies, de mensonges aux autres, à soi-même. Le milieu fast-paced de la cuisine qui est aussi très trash. N'importe qui a déjà travaillé en cuisine va vous le dire. Le devant du restaurant, c'est très propre pour accueillir les clients, mais dans la cuisine, ça bouge, ça cogne, puis ça va vite. Et c'est assez trash. Là, il y a beaucoup de drogues, de comportements dangereux, etc. Donc, le film va vraiment nous immerser là-dedans, avec Stéphane qui est au cœur de tout ça. Déjà, à la base, Stéphane est basé sur... Stéphane Larue, le personnage principal, serait donc inspiré d'une addiction réelle du réalisateur. Et ensuite, donc ça, on va pouvoir explorer toutes ces affaires-là. J'ai pas envie de trop parler du livre parce que ben, je suis allé voir le film, puis je voulais parler du film. Donc, mais on peut pas éviter le livre à 100%. Donc je vais essayer de vous raconter ce que... moi et mon deck en cinéma, on a aimé regarder là-dedans, sans essayer de trop parler du film. Comme ça, on va pouvoir garder garder des petites surprises. Un truc que j'ai trouvé super intéressant du film, c'est l'ambiance qui est amenée à l'écran. Donc ça se passe, c'est ça, ça se passe fin 90, début 2000 à Montréal. Et moi qui ai grandi à Montréal toute ma vie, qui ai grandi à Montréal, j'ai aimé comment le film t'apporte autant dans le de thèmes, donc avec la cuisine et le jeu, que dans l'époque. C'est plein de petites affaires, parce que Montréal a quand même changé beaucoup depuis. C'est des affaires niaiseux, comme les vieux autobus. Avant qu'ils rajoutent les espèces de feux d'artifice partout dessus, moi j'ai vu ça, puis ça m'a comme ramené des souvenirs de quand j'avais 2-3 ans, puis je prenais l'autobus avec la garderie ou avec ma mère. Les vieux téléphones, les vieux ordi, la musique. Donc c'est ça, un truc qui est intéressant dans le film, qui est exploré dans le livre mais qui a ses limites, c'est le thème de la musique. Stéphane aime beaucoup le métal, le rock, et dans le livre on en parle énormément, mais on peut pas, il y a une limite aux médias du papier,
on peut pas l'entendre.
Ouais. Mais le film fait très bien ça justement. Donc on explore la playlist du plongeur qui est plein de Iron Maiden, d'autres métals. Iron Maiden, c'est lui que je me rappelle le plus dans le film, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Donc ça va vraiment nous permettre d'explorer une dimension que Stéphane Larue n'a pas pu explorer dans son livre avec la musique, qui est un thème qui est très important parce que justement c'est quelque chose qui est au centre de la vie du personnage principal. Il adore la musique, donc il y a ça. Également, quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans l'ambiance et dans l'image, c'était que l'histoire se déroule dans des lieux qui sont très, j'ai envie de dire, familiers et accessibles. C'est des cuisines, des bars, des restaurants, des rues, des ruelles, des choses que beaucoup de jeunes, surtout, ou moins jeunes, ont vécu ou vivent en ce moment. Donc, tu sais, travailler dans un bar, dans une cuisine, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Et je trouve que ça a été très bien transmis. Tu reconnais... moi, en tout cas, j'ai reconnu mon expérience d'avoir travaillé en cuisine là-dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en cuisine entre vous, là.
En service à clientèle.
Service. Ah, t'as vu l'autre côté du...
Ouais, c'est
le
ça.
Côté plus clean cut.
Ouais.
Ouais.
Mais ça, je me rappelle que dans le livre, c'est bien décrit ça, l'espèce des gradins là, de la restauration. Mm-hmm. T'as les gens en service qui sont habillés, tu sais, en... chemise, que c'est tout clean, ils font bonne apparence, ils vendent des vins. Puis après ça, tu vois l'ambiance trash dans les cuisines. J'ai pas vu le film. Est-ce que cette ambiance-là était vraiment bien? Moi, je me rappelle ce qui m'avait marqué de ma lecture, là, c'est que je sentais quasiment les autres poulets, là, oui. Comme quand ils décrivaient
Un truc que le livre fait très bien, ce qui explique son succès, c'est que ça décrit très, très bien ce qui se passe. Ça paraît que l'auteur a vécu beaucoup des choses qu'il a écrites. Et le film le fait très bien. Moi, j'ai eu des espèces de flashbacks de quand j'étais plongeur, le gros rush, l'ambiance tendue dans la cuisine, tout le monde qui se crie après, parce que c'est comme ça qu'on communique dans une cuisine, c'est en se gueulant après. Tu peux être ami avec tes collègues après, mais dans la cuisine, c'est vraiment la guerre. Et ça se transmet super bien. Francis Leclerc a fait un très, très bon travail là-dessus, j'ai l'impression, avec toute son équipe, pour transmettre cette émotion du livre, de la description, avec un minimum, avec le moins de voix off possible. Parce qu'en fait, oui, il y a une voix off qui va expliquer un peu les pensées de Stéphane. Donc, il fait un peu de narration, ce qui rajoute aussi un aspect du livre qui est très, très descriptif.
Ah, il y a une narration.
Il y a une narration. Le personnage est plutôt silencieux. Il parle pas beaucoup, il est très réservé. Il y a des secrets, donc il fait attention. Mais tu vas avoir accès à sa tête, en fait, ce qui se passe dans sa tête par la narration. C'est ça. Donc, ça donne encore un aspect du livre au film. Et comme j'ai dit, j'essayais de pas trop parler du livre, mais c'est difficile. Ça reste une œuvre des œuvres qui sont très adjacentes. Une adaptation, donc c'est ça. Et oui, donc...
Comment as-tu trouvé l'interprétation par Henri Picard,
Henri,
le plongeur?
Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça bien. C'est son premier gros rôle, il me semble. Je l'ai vu dans d'autres affaires. J'ai vu beaucoup en figuration derrière, dans les films. C'est bon, mais comme j'ai dit... son personnage ne parle pas beaucoup. Donc, c'était vraiment un jeu qu'on va voir dans son corps. Comment il bouge, ses réactions. J'ai trouvé très, très bien. Ouais.
Puis, par exemple, pour des gens qui n'ont jamais travaillé en restauration, tu sais, je veux dire, nous deux, on a des références. Moi, j'ai touché un peu... Ben là, je touche au service, fait que je vois tout l'aspect de... Les formes de politesse, l'aspect plus clean de la restauration, mais après ça aussi, j'ai travaillé avec la cuisine. Pour des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience-là, est-ce que c'est amené de façon à ce qu'on comprenne un peu l'ambiance, même si on a toujours été témoin?
Ben oui, en fait, parce que justement, on voit tout ce qui se passe du point de vue à Stéphane, qui arrive là-dedans, qui n'a jamais fait ça avant. Le film commence et c'est son entrée dans le monde de la cuisine. Donc, il y a une manière, ça t'explique pas à pas qu'est-ce qui se passe, parce que lui aussi le découvre. Mais c'est accessible aux gens qui n'ont pas déjà travaillé dans le milieu de la restauration. Sinon, ça va vraiment te montrer une facette du monde que tu n'imaginais pas, que tu ne pouvais pas concevoir, vu que t'étais tout le temps la personne assise qui se faisait servir, qui voit juste la partie clean, justement, du resto. Une autre chose que j'ai aimé, c'est je parlais d'accessibilité. Ça se passe à Montréal. Encore là, c'est quelque chose que si tu as vécu à Montréal longtemps ou grandi à Montréal, tu vas pouvoir mieux apprécier que si tu ne viens pas de Montréal. La représentation de Montréal, j'ai reconnu beaucoup, beaucoup de choses dans la ville, au film, pas nécessairement des coins de rue, là, mais des scènes. Donc, il y a quelque chose de très vrai dans ce qui se passe.
Les références montréalaises, là.
Oui, mais plutôt à la ville, et comment la ville, c'est pas... j'ai l'impression que la ville a comme son rôle d'être trash, en fait. C'est très trash comme film. C'est un univers qui... On parle, c'est de l'addiction, c'est au jeu, il y a de la consommation de drogue, il y a plein d'affaires dangereux. Ça te montre cette facette-là que... Tu sais, des fois, tu peux ne pas t'imaginer qu'on va parler de la restauration, que tu vas tout explorer cette partie un peu plus comme cachée du monde de la ville de Montréal. Et moi, j'ai reconnu beaucoup de choses qui m'ont permis de bien m'immerser dans le film. En fait, je trouve que c'était très immersif. Donc, tu te sens vraiment avec les bruits, avec les éclairages dans la ville, et ça fait quelque chose d'intéressant.
Ce qui est intéressant avec Le Plongeur, en fait, je pense que c'est dans les premières œuvres qui a parlé de ce milieu de restauration-là, alors que c'est comme un consensus pour les gens qui travaillent là que c'est une routine, une carambole de... Tu tournes autour du pourboire, de l'argent, de la drogue, tu sais, c'est comme... Tout le monde sait que c'est un univers comme ça, alors que... S'il y a des parties qui sont plus négatives, qu'on pense au terme pourboire, si on décortique, ça m'avait frappé là, pour boire. Tu décortiques étymologiquement parlant, c'est vraiment pour boire. Les gens, ils ont leur type, ils flopent dans l'argent, dans la drogue. Il y a vraiment cette culture-là qui reste. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir. Puis là, c'est mis aux yeux de tous et toutes. Oui.
Puis tu dis que c'est un truc que tout le monde sait, mais que tout le monde ne sait pas en même temps, ou le monde, il l'ignore.
Ouais, c'est mais... un non-dit collectif.
Ouais, non, ouais, mais ça, pour moi, j'ai l'impression que ça soit tu travailles dans un resto, puis là, c'est que tu vas voir des affaires qui sont trash, mais c'est tout caché parce que.
Faut faire belle figure.
Faut faire belle figure, ouais.
Donc, ouais. Donc ça va être un rendez-vous, le plongeur qui est à la soirée d'ouverture du RVQC, Rendez-vous Québec Cinéma. Il sera en salle au Théâtre Maisonneuve à 19h mercredi. Oui. Donc j'espère que...
la première en salle pour le public le 24 février, donc vendredi. Oui. Moi, je risque de retourner le voir avec mes parents, mes amis, ma famille. J'ai beaucoup aimé ça. Je vous invite à faire de même. C'est important de supporter les artistes locaux.
Donc, rendez-vous Québec Cinéma, rendez-vous avec Antoine et sa famille.
Ouais, oui, c'est ça. Venez au rendez-vous pour rencontrer sa famille. Puis, comme tu l'as bien expliqué tantôt, Olivia, c'est vraiment une chance de voir une fenêtre sur le monde cinématographique québécois. C'est que des œuvres québécoises. On encourage les artistes locaux.
Et pas que des œuvres. Il y a beaucoup d'ateliers aussi. Il y a des ateliers dirigés à différents groupes d'âge aussi. Donc, on va avoir des affaires plus pour les enfants. Il y a tout le temps les ateliers popcorn. En tout cas, il y a du popcorn, il y a un atelier, tu apprends quelque chose avec un expert du milieu qui vient te parler de doublage, de prise de son ou des choses plus accessibles pour les plus petits, pour intéresser les gens justement à ce milieu-là. Il y a aussi il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de projections gratuites d'événements comme il y a le prix collégial du cinéma qui vont faire une projection des gagnants et on va avoir une discussion avec le jury. Après. Et il va y avoir aussi l'autre qui avait piqué mon intérêt, c'était le concours Écris ton cours. C'est un concours de court-métrage qui font la projection des finalistes et le 25 et on va avoir un visionnement justement des films. C'est un événement gratuit. Moi, je vous conseille d'aller voir la planification du Québec du Rendez-vous Québec Cinéma. Ouais. C'est très, très intéressant.
Et c'est tout disponible sur le site Rendez-vous .quebeccinema.ca. Vous allez voir toute l'offre qu'on a accès. Puis on a la chance cette semaine à Dans les arts de recevoir le réalisateur Phil Como du documentaire qui sera projeté le 28 février, L'Ordre secret. On a une entrevue avec lui tout à l'heure, mais on se laisse sur une petite interlude musicale et une petite chronique de Olek qui va nous parler d'un show de musique qu'il est allé voir cette semaine. On se laisse sur L'énorme chien, très gentil, par Velours Velours.
Je pense que j'ai toujours eu le cœur à bonne place, mais j'avais besoin de quelque chose pour me remettre sur la traque. C'est pas une ponce de gin, ni de me défoncer la face. Et c'est un ami fidèle, un compagnon à quatre pattes. Le chien énorme et gentil, le chien énorme et gentil. Dans ma vie, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui m'a choisi. Il a de grandes oreilles pour écouter tous mes problèmes. Il ne sait pas parler ni me dire que je suis toujours le même. Ah, ah, ah. Sûrement quelque chose a changé. J'ai fait des efforts tous les jours pour m'améliorer.
Énorme et gentil, le chien énorme et gentil.
c'était L'énorme chien très gentil par Velours Velours. C'est un nouveau single qui a sorti en janvier dernier. Puis sur cette trame musicale, Lele, est-ce que tu veux nous parler du show que tu étais allé voir à la Petite Marche d'à côté jeudi dernier?
Oui, en fait, comme je suis la personne à Montréal, qu'on a juste fini de parler d'un film bien montréalais, la marche à côté, ou la petite marche, qui est juste à côté, c'est des lieux quand même traditionnellement, culturellement classiques à Montréal. On connaît bien le Quai de Brumes, juste en face, je me rappelle plus de nom. Antoine, est-ce que toi, tu te rappelles le nom de...
Le Quai des Brumes.
En face du Quai des Brumes, c'est quoi que nous on a? Non?
À côté, il y a le scoop.
Yes,
exact.
Le triangle des Bermudes.
Ben, pour en nommer davantage, c'est toute la musique qui est extraordinaire à découvrir, mais qu'on écoute rarement en ligne. Donc moi, je suis allé voir un band d'inspiration balkan qui s'appelle Dumachi Tovubachi le jeudi dernier. Et en fait, j'étais vraiment capté par l'ambiance. Si vous êtes déjà allé à la marche à côté, c'est vraiment un plus petit bar et la scène est assez petite. En avant, souvent, ils mettent des tables, mais comme les gens qui viennent voir le concert là-bas sont vraiment inspirés à danser et à vivre les émotions fortes, ils ont enlevé tous les divans, les tables. Donc, ça se voyait dès le début que les gens ils se préparaient à se défouler. Et en fait, l'ambiance a été juste malade. Autant, en fait, l'entrée par la musique plus d'inspiration serbe avec tous les instruments vivants, tu te sentais juste vivant, en fait. Même si on comprend rien de ce qui est chanté, on sent comme la musique nous traverse à travers les instruments et les paroles et on se met à danser. Même moi, j'étais à côté des personnes qui participaient dans cette action et ma jambe n'arrêtait pas de danser. En fait, j'étais vraiment...
Seulement ta jambe, une de tes jambes dansait
et
le reste de ton corps.
Non, c'est ça, j'essaie de rester objectif, écouter. Mais c'est difficile de résister à la musique balkan. Si vous avez déjà eu la chance d'en écouter, c'est vraiment une musique de vie, de joie. On dirait que ton système nerveux, il est capté par ce son-là et t'as plus de contrôle sur toi, tu danses.
Attention à vos jambes.
À votre jambe droite, c'est ça. La gauche, elle est correcte, mais attention à la jambe droite. Mais pour en dire, je vous encourage tous à y aller. J'ai eu une petite nouvelle exclusive de band de Dumachi Tovubachi que leur prochain concert va être le 16 mars. Donc, encore à la marche. Encore à la petite marche à côté. Et pour en dire qu'ils font des concerts une fois par mois à peu près, souvent le jeudi à la marche sur côté. La marche à côté. Puis, j'en ai parlé, j'ai eu la chance de discuter avec l'espèce de directeur du band qui s'appelle Ellie. Puis il m'a dit que leur objectif, ce serait de jouer encore plus. Et on a un peu eu le temps aussi de discuter des années précédentes sur... on a eu le côté COVID, il y a eu plusieurs problématiques au niveau pour les artistes. Puis il dit que cette année, ça s'améliore. Ils étaient, comme ils font de la musique assez intéressante, mais ils étaient... invité à plusieurs festivals. Donc, c'est un band que je vous souhaite et je vous encourage à découvrir.
Et leur information, où est-ce qu'on peut trouver l'information des shows? C'est sur Facebook, ça?
Exact. Ils ont une page Facebook qui s'appelle Dumachi Tovubachi. Sinon, tant que vous allez sur la petite marche, la marche à côté, ils ont tout le temps une programmation. Je vous encourage à découvrir, en fait. C'est vraiment une belle... c'est vraiment une belle initiative qu'ils font. Et si vous regardez leur programmation, vous pouvez voir qu'il y a comme au moins 5 fois par semaine qu'il y a des bands qui jouent tout le temps. Et c'est tous les artistes qui méritent en fait d'être vus, attendus. Donc je vous encourage fortement de vivre cette expérience puis de ressentir cette petite pièce. C'est pas un grand espace, c'est un petit espace. Vous n'êtes pas nombreux. C'est vraiment une expérience classique montréalaise, mais qui est plus intime et axée sur la découverte. Donc, pour en rappeler, 16 mars, marche à côté et on va voir Dumachi Tovubachi.
Dumachi Tovubachi, merci Alec. Puis, comment est-ce que tu épelles le nom pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de soutien visuel pour bien faire leur recherche, mettons?
Ah oui, ça va être spécial. On va commencer par écrire en majuscule D. Après ça, on a U, M, A, C, I. On va faire un petit espace. Et Tovubachi, c'est T. R-U-B-A-C-I. Dumachi Tovubachi.
Dumachi Tovubachi, merci Alec. Puis on va se laisser sur Je penserai à toi par Zoo Baby et La Vague par Jeanne Côté. On se retrouve après la pause, vous écoutez Dans les airs avec l'entrevue avec Phil Comeau qui va nous parler de son prochain documentaire L'Ordre secret qui qui sera publié au RVQC. À tantôt!
Que c'est long, m'attendra demain quelque chose de bien et de bon. Besoin d'un câlin, besoin d'une réponse, oui ou non. Et si j'avais besoin de quelqu'un, je penserais à toi. Avant de perdre la tête, je penserai à toi. Et juste avant de faire une gaffe, je penserai à toi. Je penserai à toi. Que c'est lent, rencontrer l'amour quand le temps est lourd. Et
porte-polo. La solitude m'a façonné, trempé dans l'écume et l'écho. Je porte son parfum salé, en tout point cousu sur la peau, en tout point cousu sur la peau. La solitude m'a façonné et je marche dans ses sabots.
Alors, c'était La Vague par Jeanne Côté. Vous écoutez Dans les airs, ce lundi 20 février. On va maintenant aller à la rencontre de Phil Como, auteur, réalisateur du documentaire L'Ordre secret. Donc, je le mets justement directement en onde à choc. Allô? Allô, Phil, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je suis là.
Oui, super. Bon, bienvenue à choc. Par l'entremise du téléphone, comment vous sentez à l'approche de la production de ce film-là, qui va être en salle le 28 février?
Oui, bonjour.
Oui.
Répétez, s'il vous plaît.
Oui, oui, pardon. Donc, réalisateur, cinéaste acadien, reconnu comme un ambassadeur de la culture acadienne. Vous avez produit récemment un documentaire « L'Ordre secret » qui met en lumière l'Ordre de Jacques Cartier, La Patente, une puissante société secrète qui, de 1926 à 1965, a infiltré tous les secteurs de la société canadienne pour défendre les intérêts des Français catholiques. Vous avez appris que votre père a été commandeur de l'Ordre. Comment a été cette découverte du passé pour vous?
Ben, c'est intéressant parce qu'il était sur son lit de mort et il m'a annoncé ça 3 jours avant de décéder, qui en faisait partie. Et dès ce moment-là, je me suis toujours posé la question, c'est à quoi la patente, c'est à quoi l'Ordre de Jacques Cartier, qu'est-ce qu'ils avaient fait, tout ça. J'en avais entendu parler un peu, mais comme c'était une société secrète, on ne connaissait pas beaucoup d'informations. Et puis donc, je suis allé aux archives à Ottawa, aux archives nationales, puis aussi à l'Université d'Ottawa pour fouiller dans les archives, parce que c'est les deux endroits en Ontario où il y a beaucoup d'informations sur l'Ordre de Jacques Cartier. Il y en a également dans plusieurs autres universités au pays, comme à l'Université de Montréal, ensuite à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, etc. Et ben c'est ça. De là, je me suis dit, ça serait intéressant de filmer des commandeurs qui sont vivants, qui sont toujours vivants, donc les membres de l'Ordre de Jacques Cartier. Et donc, j'ai traversé un peu dans 5 provinces pour aller filmer des gens qui ont parlé de participation dans l'ordre, de ce qu'ils ont fait, et leur victoire et leur défaite, etc.
Oui, et justement, dans le documentaire, on voit cette rencontre, cette enquête où vous rencontrez ces anciens membres de l'organisation qui se confient pour la première fois, des témoins qui racontent. Comment étaient ces rencontres-là? Est-ce que dans cette enquête-là, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées? Comment est-ce que les gens ont reçu votre intérêt pour la patente?
Ça a été difficile au début parce que la plupart ne voulaient pas révéler qu'ils faisaient partie de l'ordre parce qu'ils ne savaient pas que le registre était officiellement public depuis quelques années. Au début, il fallait que ce soit pendant 50 ans que tout soit tenu secret. Et à partir du moment que le registre est public, et maintenant, là, on peut savoir si qui les 72 000 personnes à travers le Canada français, au Québec puis à l'extérieur du Québec, en ont fait partie. Donc, en les téléphonant, je leur rappelais que j'étais aussi un fils de commandeur, oui.
Oui.
Et puis donc, ça, j'ai réussi à en filmer une quinzaine. C'est tout ce que je voulais d'ailleurs, une quinzaine, mais de différentes régions, différentes provinces. Et puis, c'est comme ça que le foie a été fait sur les commandeurs qui sont dans le film. Sinon, ben, on a fait des fictions aussi. On reconstitue une initiation, une cérémonie d'initiation de jeunes recrues. Et donc, avec les masques et tout ça, et donc, on démontre les 5 épreuves qu'ils doivent faire pour assurer aux membres. Ils sont masqués, ils ne voient personne autour d'eux, c'est les membres de l'ordre d'une cavalerie.
Oui.
Et ils sont passés à travers.
Exactement, et c'est des cérémonies assez frappantes pour avoir la chance d'avoir pu voir le documentaire. C'est des scènes cérémoniales qui sont assez intenses. Et ma question pour vous, justement, c'était de savoir si elles étaient telles quelles. Donc, comment est-ce que le processus de reconstitution s'est fait pour les cérémonies?
Pour les cérémonies, ben, ils ont un guide. L'ordre de Vacatier, ce qui est assez incroyable pour un ordre secret, il y avait des guides en hardcover, comme on dit, avec des vrais livres. avec toutes les directives, comment procéder à faire les cérémonies d'initiation. Et donc, les 5 épreuves sont décrites au détail à l'intérieur de ce guide d'initiation. Et tu sais, il y a 4 initiations. Moi, je vais juste montrer l'initiation du degré 1. Okay. Il y a 4 degrés en tout.
Ah, il y a 4 initiations? Wow.
Oui, il y a 4 initiations. À mesure que tu avances dans l'ordre, à mesure que tu fais preuve de choses extraordinaires, à ce moment-là, tu montes. Mais un peu comme l'ordre du Canada, je sais pas.
Oui, exactement. Donc, vous dites que ce qui se retrouvait dans les livres de hardcover, justement, c'était tel quel ce qui a pu être mis à l'écran par rapport à la première initiation?
Oui, oui. Oui, c'est je me suis basé sur le document de 1955. Donc, c'est ça. Il y a eu des variantes à travers les 40 ans de l'ordre de Vacatier, de l'ordre secrète. Mais celle de 1955, ça m'intéressait spécialement parce que c'était à ce moment-là qu'il y a eu le plus grand nombre de membres qui sont devenus des commandeurs. Donc, je me suis dit, ah, c'est une belle époque. Puis c'est juste avant la Révolution tranquille, autant au Québec qu'en Acadie et en partie en Ontario. Donc, je trouvais que c'était bien de me baser sur cette initiation-là, oui.
Mm-hmm. Puis, vous avez mentionné, c'est plus de 72 000 membres qui ont formé l'Ordre de Jacques Cartier. C'est quand même assez énorme. Les années auxquelles vous vous intéressez, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'initiations de commandeurs. Dans ces années-là, combien de commandeurs se faisaient initier approximativement? Est-ce que vous savez?
Ah ben les membres, si j'ai bien compris, tous les membres sont initiés. Ils doivent tous se faire initier.
Mm-hmm.
Oui, ça fait qu'il y a eu 72 000 membres. Donc, il y a eu des initiations. Il y a eu 850 commanderies à travers le Canada. une centaine en Ontario, 650 au Québec, une cinquantaine aux provinces maritimes, et puis la balance c'est dans les autres provinces. Ça fait que sur 850 commanderies, ben tu mets 72 000 personnes dans 850, je ne sais pas combien ça fait en moyenne de...
C'est vrai, c'est assez énorme, vraiment. C'est ouais. très énorme. Ouais. Et ce documentaire-là, une des forces justement que j'ai trouvées était qu'il mettait en lumière tout le processus administratif, organisationnel que consistait cet ordre-là, qui a pu forger le destin des communautés de langue française et aller à la défense quand on parle des Acadiens, mais aussi au Québec. C'est une cause qui... Est-ce que c'est une cause qui est proche à vous? Pour avoir eu un père commandeur, est-ce que la défense de la langue française, est-ce que vous viviez ça beaucoup quand vous étiez jeune?
Ben, j'ai été... On tombe jamais... Une pomme tombe jamais loin du pommier. J'ai été élevé avec la forte croyance que ma culture, ma langue était super importante et je continue à le dire. On est ce qu'on est quand on est né. Et donc, c'est ça, ça fait partie de mon identité. Et je le fais à travers tous mes films. Je parle souvent d'identité ou de culture. C'est quelque chose qui me tient très à cœur quand je vois l'assimilation qui se produit un peu partout dans le pays. Sur certains membres de la communauté francophone, je trouve ça désolant. Puis,
Est-ce que l'avenir de la langue française vous paraît inquiétant?
Oui, c'est inquiétant quand on voit qu'on perd un pourcentage de francophones autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. C'est inquiétant. Moi, je suis né en Nouvelle-Écosse et en Nouvelle-Écosse, il ne reste plus que 5% de la population qui parle français, alors qu'il y a eu un moment donné qu'il y en avait... Ben, avant la déportation, c'était majoritaire. Évidemment, on est à quasi 100%. Mais 50 ans passés, il y en avait le triple. Donc, c'est ça. Le Nouveau-Brunswick aussi, en pourcentage, dans les années 60, c'était 40%. La population du Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, c'est 30%, 30,5%. Au Québec aussi, si on regarde à Montréal, la moitié de l'île de Montréal est anglophone. Donc, oui, c'est inquiétant, oui.
C'est une réalité qui est inquiétante et ce documentaire aide à mettre en perspective les différentes luttes qui ont été faites pour défendre la langue et les luttes qui restent à venir. Selon vous, quel est le plus grand legs de ce documentaire, L'Ordre secret?
Je pense que c'est extraordinaire ce que ces commandeurs-là ont fait dans le secret en termes de lobbying, en termes de faire avancer les droits des francophones. Faut pas oublier que 3 ans après qu'ils ont été dissous, l'ordre, les membres de l'ordre fonctionnaient toujours, même s'il n'y avait plus d'organisation comme telle. Et c'est en 68 que le Canada est devenu bilingue officiellement, que la langue française a été reconnue, que le Nouveau-Brunswick est devenu bilingue. On a vu énormément de changements au niveau économique, au niveau des caisses pop, des coopératives, coopératives d'agriculture, de pêcheurs, de fermes, de foresterie, etc., qui ont fait avancer les francophones. On serait beaucoup moins égal au reste de la population canadienne si ça n'avait pas été du travail qu'a fait l'ordre de Jacques-Cartier.
Mm-hmm. Mais c'est très inspirant tout ça. Puis, pour les auditeurs de Choc qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vous auriez un message à passer par rapport aux rendez-vous en salle qui les attendent le mardi 28 février prochain à 20h30 au Quartier Latin pour voir le film de L'Ordre secret?
Ben, pressez-vous si vous voulez le voir parce que je viens d'apprendre qu'il restait plus rien que 60 billets.
Ouh, 60 billets seulement? Oui. Ouf!
Oui. Ça fait que ça se peut que dans 2 jours, il n'y en aura plus, ou même après cette entrevue-ci.
Oui, c'est ça. Peut-être que les auditeurs vont se ruer sur le guichet en ligne. On l'espère
oui,
bien.
Oui, c'est ça. Mais ensuite de ça, le lendemain, le 1er mars, on s'en va le présenter à Orléans, qui est en banlieue d'Ottawa, au CineStars à Orléans.
À Orléans aussi. Donc, les gens pourront se reprendre à Ottawa également s'il manque le rendez-vous à Montréal. Quels sont les autres projets qui vous attendent suite au documentaire à cette présentation?
Dans le moment, je viens de terminer un autre film qui va lancer dans quelques temps. Ça s'appelle Racines, Diaspora et Guerre, et c'est les liens qu'ont les Acadiens avec les Français de France. Pendant les déportations, beaucoup d'Acadiens ont été déportés en Europe, à peu près 5 000. Ils se sont installés au Poitou, en Bretagne, puis en Normandie. Et donc, je suis la comédienne et chanteuse Isabelle Cyr, qui, elle, traverse ces trois régions-là en France pour rencontrer ses cousins. Et donc, celui-là, c'est pas un long métrage comme L'Aube Secret, c'est un film d'une heure et donc je vais le lancer bientôt.
Un film d'une heure. Un autre projet, donc, que vous êtes beaucoup occupé quand même, vous gardez occupé. Merci beaucoup d'être venu à Choc, Phil Comeau. On vous invite à aller voir sur le site de rendez-vous québeccinéma.ca le rendez-vous de L'Ordre secret qui sera le 28 février en salle. Merci beaucoup, puis on vous souhaite une super belle continuité dans tous vos projets. Merci!
Merci!
Au revoir! Merci! On se laisse en musique à Dans les airs. Vous écoutez le balado et on va revenir avec une chronique sur un concert musical de cette semaine. À tout à l'heure! C'était Anna par Vanille. Vous écoutez Dans les airs et on a retrouvé notre co-animatrice Olivia qui n'était pas là. Veux-tu raconter qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même une très bonne anecdote.
Donc, j'ai essayé d'entrer dans le Fort Knox de choc après avoir sorti du studio, prendre une gorgée d'eau. Puis, mais la porte était barrée.
Tu t'es ramassé dans
les
dans
deux
un...
sens. Puis, j'ai réussi à trouver un agent de sécurité qui voulait savoir pourquoi je voulais entrer dans le studio de choc. Je lui ai dit, je suis en direct. Voilà, c'est Florence, ma coéquipière, qui ne m'entendait pas parce que les studios de choc sont très bien insonorisés.
Ouais, voilà.
Heureusement pour vous, les auditeurs. Mais moi, j'étais dans le pavillon Judith Jasmin pour 20 minutes. Chercher quelqu'un, j'avais pas mon téléphone.
Oh non.
Fait que je ne pouvais pas avertir.
Quel enfer. Moi, j'étais sûre que t'étais allée voir des films ou que Oleg t'avait donné envie avec la danse par le compte d'aller danser au Quai des Brumes. J'étais là, elle est partie faire son fun de magazine culturel dans les airs. Mais ouais, on est très contente de te revoir parmi nous. D'ailleurs, c'est dommage parce que, justement, t'as aussi regardé L'Ordre secret de Phil Como.
Oui, alors, ouais, on l'a juste reçu en entrevue. Ça s'est bien passé, j'imagine.
Oui, ça s'est bien passé. Comment t'as trouvé le documentaire, toi?
Oh, super! J'apprécie beaucoup l'histoire franco-acadienne. Puis Phil Como a fait un super bon travail, genre de présenter ça. C'était très intime. J'ai apprécié la découverte de sa culture à travers. Mais c'était sa propre découverte. Il découvrait mm-hmm. l'histoire de sa famille, sa propre patrie.
À travers
patrie.
Cet ordre secret, oui.
Ouais.
La patente qui est quand même un peu drôle de nom, hein,
oui,
pour une affaire secrète, mais semble, si tu manges.
Ça fait pas très solennel, la patente.
C'est ça. Tu sais, c'est un ordre secret. Allez voir le film en salle, mais il y a vraiment des cérémonies super solennelles. Puis, tu sais, tu vois la patente. Puis...
Embarqué sur le navire de Jacques Cartier.
Ouais, embarqué pour défendre la patrie des Français catholiques de l'époque. Donc, voilà. Ruez-vous en salle sur les billets qui restent.
Après, rendez-vous Québec Cinéma.
Rendez-vous encore, oui. Mmh. Rendez-vous Québec Cinéma. On va finir l'émission avec une trame un peu plus musicale. Cette semaine, c'est une semaine assez spéciale et en signification. Ça va faire bientôt un an que l'invasion en Ukraine par la Russie a été déclarée et déclenchée. Je suis allée voir un concert du pianiste ukrainien Seriv Salov et le quatuor à cordes de ProMusica à la salle Pierre-Marcure hier. C'était une super rencontre que j'ai faite avec ces artistes qui jouaient pour la première fois ensemble. C'était une fois unique, malheureusement. J'en parle parce que je trouve que c'est important d'en parler. C'est des spectacles qui méritent d'être vus, méritent d'être entendus. Malheureusement, il y a tellement une offre culturelle que des fois, c'est difficile d'assister à tout, mais vraiment, aller voir ce qu'ils font. On a eu accès à des morceaux de Mozart et Chopin avec une entracte. J'ai été ébranlée, touchée. Je suis sortie de là et j'ai dû m'asseoir dans un café pour écrire mes ressentis, tellement c'était puissant en musique. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des concerts de musique classique?
Oui.
Ouais. Puis c'est frappant quand même, hein?
C'est quelque chose, ouais. Moi, j'apprécie surtout la tradition de musique classique allemande.
Ah oui?
Oui. Ben, Bach, Mozart.
Ah oui, Bach, Mozart, ben oui. Vraiment, puis ça, c'est quelque chose qui vient de chercher à un autre degré. Et cette musique-là, et c'est se transmet de génération en génération, c'est un leg quand même assez puissant. Ce qui m'a beaucoup touchée dans la prestation de Seriv, c'est qu'à la fin du concert, il a pris un moment, à travers les saluts, les applaudissements, les bouquets de fleurs, pour que tout le monde se rassoie. Un an auparavant, en mars dernier, il avait joué devant le consulat russe de Montréal en signe de solidarité à l'Ukraine. Puis il a repris un moment pour souligner sa solidarité, puis pour souligner que ça va faire bientôt un an. Et il a joué une pièce improvisée. Il est sorti avec un petit bout de papier, puis il était comme « Non, non, c'est pas un speech, c'est une partition. » Il a mis sa partition sur le bouquet de fleurs sur le piano, un peu toute... l'a fait toute fripée, puis il a joué une pièce. Malheureusement, j'ai pas pu trouver quelle était cette pièce, mais elle était super... émouvante et touchante, des petites larmes se sont glissées sur mes joues. Alors, Serif Salov, pianiste de renommée internationale, qu'on a eu la chance d'avoir en entrevue la semaine dernière, Noémie Raymond-Frisette, la violoncelliste du Quatuor à cordes. Allez suivre ce qu'ils font au Pro Musica, c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir mon petit ressenti que j'ai vécu après la pièce?
Bien
ouais.
Sûr.
C'est oui, c'est assez poétique.
Allons-y.
Donc, souplesse de la puissance d'une note, ondulée au corps des musiciennes et de ses rives, un regard ponctuant les silences du morceau, un soupir engouffrant l'extase d'un moment. Mes pensées se sont arrêtées sur un octave, la traversée si sûre des notes soutenues, il et elle étaient soutenues par le même et seul élément sûr, l'histoire des notes, la musique des mots racontés. Une chose est certaine, la musique reste. À travers toute l'atrocité qui vit d'un monde, Chopin continuera d'arrêter nos pensées sur une ronde. J'en parle puisque j'ai été émue de le vivre en ce moment et j'aimerais que tous et toutes puissent le vivre aussi. En entrant dans la salle Pierre Mercure, mes paroles ont croisé celles d'une femme au regard agité et aux émotions vaillantes. Elle m'a dit « Tu savais qu'il a joué ses rives devant le consulat de Russie à Montréal ?» Sa vie a changé depuis, c'est un génie et pas assez de gens sont venus l'écouter. Je vous souhaite de vivre ces rencontres, ces moments, de venir en salle vivre ces instants. Serif Salov a rendu hommage aux victimes de la guerre hier, il a mélangé pièce à improvisation. Après le dernier salut, il a parlé de son rapport à sa pièce, que la dernière fois qu'il avait joué là, c'était avant que la guerre n'éclate, à la salle Pierre-Mercure. Il s'est assis pour jouer un dernier morceau. Car après un an, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en Ukraine. Puis là, je reprends ces mots. Et comme il l'avait dit à Radio-Can, les mots ont des limites. On dit qu'au-delà des mots commence la musique. Alors voilà, c'était...
C'est beau.
Oui, c'était ce ressenti. Et je vous souhaite de vivre ces concerts-là. Puis c'est le fun d'avoir dans les airs, puis toute cette plateforme de choc pour pouvoir en parler. D'ailleurs, il y a une assemblée générale mardi prochain... pour pouvoir voter pour une augmentation, pour pouvoir subvenir aux moyens de choc. C'est important de se présenter le 7 mars.
Pizza gratuite.
Pizza gratuite?
Oui.
Alors, oui, si vous n'avez rien à rajouter, je nous laisserai en musique, parce que les mots, des fois, ont des limites, et la musique. Et la prochaine, il laisse en poésie. Donc, on va se laisser en musique. Vous avez écouté Dans les airs. Merci à mes complices et camarades Alexis et Antoine du Palmarès qui se sont retrouvés dans cette salle.
Oui, merci à vous tous.
Ça fait plaisir.
De rien.
Et d'ailleurs, écoutez le Palmarès de cette semaine. On fait une émission spéciale Ukraine. On va jouer de la musique ukrainienne et on va avoir la chance d'avoir un artiste invité. Donc, soyez aux aguets pour cette émission spéciale. Merci encore à Olivia, ma très chère, qui s'est fait embarrer.
On se retrouve la semaine prochaine. Je sortirai pas du studio.
Exact. Garde tes clés sur toi.
Oui, c'est ça. On va s'embarrer dans le studio la prochaine fois avec toi. Parfait. Ouais. Mais merci. Et on se laisse sur Papier glacé par Tutsi. Merci.